Qui connaît à cette heure le mot comprachikos? Et qui en sait le sens? Comprachikos, de même que compra pequeños, est un mot espagnol composé qui signifie les achètes petits. Les comprachikos faisaient le commerce des enfants. Ils en achetaient et ils en vendaient. Ils n'en dérobaient point. Le vol des enfants est une autre industrie. Et que faisaient-ils de ces enfants? Des monstres. Pourquoi des monstres? Pour rire. Le peuple a besoin de rire, les rois aussi. Il faut au carrefour le baladin, il faut au Louvre le bouffon. Les efforts de l'homme pour se procurer de la joie sont parfois dignes de l'attention du philosophe. Qu'ébauchons-nous dans ces pages préliminaires? Un chapitre du plus terrible des livres, du livre qu'on pourrait intituler « L'exploitation des malheureux par les heureux ». Un enfant destiné à être un joujou pour les hommes, cela a existé. Et cela existe encore aujourd'hui. Aux époques naïves et féroces, cela constitue une industrie spéciale. Le XVIIe siècle, dit grand siècle, fut une de ces époques. C'est un siècle très byzantin. Il eut la naïveté corrompue et la férocité délicate, variété curieuse de civilisation. Un tigre faisant la petite bouche. Pour que l'homme hochet réussisse, il faut le prendre de bonne heure. Le nain doit être commencé petit. On jouait de l'enfance. Mais un enfant droit, ce n'est pas bien amusant. Un bossu, c'est plus gai. De là, un art. Il y avait des éleveurs. On prenait un homme et l'on faisait un avorton. On prenait un visage et l'on faisait un mufle. On tassait la croissance. On pétrissait la physionomie. Cette production artificielle de cas tératologiques avait ses règles. C'était toute une science. Qu'on s'imagine une orthopédie en sens inverse. Là où Dieu a mis le regard, cet art mettait le strabisme. Là où Dieu a mis l'harmonie, on mettait la difformité. Là où Dieu a mis la perfection, on rétablissait l'ébauche. Et aux yeux des connaisseurs, c'était l'ébauche qui était parfaite. L'homme a toujours voulu ajouter quelque chose à Dieu. L'homme retouche la création, parfois en bien, parfois en mal. Le bouffon de cour n'était pas autre chose qu'un essai de ramener l'homme au singe, progrès en arrière, chef-d'œuvre à reculons. En même temps, on tâchait de faire le singe homme. Cette promiscuité voulue par les grands, de l'homme et de la bête, était particulièrement soulignée par le nain et le chien. Le nain ne quittait jamais le chien, toujours plus grand que lui. Le chien était le bini du nain. C'était comme deux colliers accouplés. Cette juxtaposition est constatée par une foule de monuments domestiques. Dégrader l'homme mène à le déformer. On complétait la suppression d'État par la défiguration. Certains vivisecteurs de ces temps-là réussissaient très bien à effacer de la face humaine l'effigie divine. Le docteur Conquest, membre du collège d'Amon Street et visiteur juré des boutiques de chimistes de Londres, a écrit un livre en latin sur cette chirurgie à rebours dont il donne les procédés. Cela faisait des êtres dont la loi d'existence était monstrueusement simple. Permission de souffrir, ordre d'amuser. Cette fabrication de monstres se pratiquait sur une grande échelle et comprenait divers genres. Il en fallait au sultan, il en fallait au pape, à l'un pour garder ses femmes, à l'autre pour faire ses prières. C'était un genre à part, ne pouvant se reproduire lui-même. Ces à peu près humains étaient utiles à la volupté et à la religion. Le sérail et la chapelle Sixtine consommaient la même espèce de monstre. Ici féroce, là suave. On savait produire dans ces temps-là des choses qu'on ne produit plus maintenant. On avait des talents qui nous manquent. Et ce n'est pas sans raison que les bons esprits crient à la décadence. On ne sait plus sculpter en pleine chair humaine. Cela tient à ce que l'art des supplices se perd. On était virtuose en ce genre, on ne l'est plus. On a simplifié cet art au point qu'il va bientôt peut-être disparaître tout à fait. En coupant les membres à des hommes vivants, en leur ouvrant le ventre, en leur arrachant les viscères, on prenait sur le fait les phénomènes, on avait des trouvailles. Il faut y renoncer, et nous sommes privés des progrès que le bourreau faisait faire à la chirurgie. Cette vivisection d'autrefois ne se bornait pas à confectionner pour la place publique des phénomènes, pour le palais des bouffons, espèce d'augmentatif du courtisan, et pour les sultans et papes des eunuques. Elle abondait en variantes. Un de ses triomphes, c'était de faire un coq pour le roi d'Angleterre. Il était d'usage que, dans le palais du roi d'Angleterre, il y eut une sorte d'homme nocturne chantant comme le coq. Ce veilleur, debout, pendant qu'on dormait, rôdait dans le palais, et poussait d'heure en heure ce cri de basse-cour, répété autant de fois qu'il le fallait pour suppléer à une cloche. Cet homme, promu coq, avait subi pour cela en son enfance une opération dans le pharynx, laquelle fait partie de l'art décrit par le docteur Conquest. Il y a 100 ans à peine, à Pétersbourg, les mémoires de Catherine II le racontent, quand le tsar ou la tsarine était mécontent d'un prince russe, on faisait accroupir le prince dans la grande antichambre du palais, et il restait dans cette posture un nombre de jours déterminés, miaulant par ordre, comme un chat, ou gloussant comme une poule qui couve, et becquetant à terre sa nourriture. Ces modes sont passées, moins qu'on ne croit pourtant. Aujourd'hui, les courtisans gloussant pour plaire modifient un peu l'intonation. Mais plus d'un ramasse à terre, nous ne disons pas dans la boue, ce qu'il mange. Il est très heureux que les rois ne puissent pas se tromper. De cette façon, leur contradiction n'embarrasse jamais. En approuvant sans cesse, on est sûr d'avoir toujours raison, ce qui est agréable. Le commerce des enfants au XVIIe siècle se complétait, nous venons de l'expliquer, par une industrie. Les Comprachicos faisaient ce commerce et exerçaient cette industrie. Ils achetaient des enfants, travaillaient un peu cette matière première, et la revendait ensuite. Les vendeurs étaient de toutes sortes, depuis le père misérable se débarrassant de sa famille, jusqu'au maître utilisant son haras d'esclave. Vendre des hommes n'avait rien que de simple. De nos jours, on s'est battu pour maintenir ce droit. On se rappelle, il y a de cela moins d'un siècle, l'électeur de Hesse vendant ses sujets au roi d'Angleterre qui avait besoin d'hommes à faire tuer en Amérique. On allait chez l'électeur de Hesse, comme chez le boucher, acheter de la viande. L'électeur de Hesse tenait de la chair à canon. Ce prince accrochait ses sujets dans sa boutique. Marchander, c'est à vendre. Les Comprachicos se nommaient aussi les Chelas, mot hindou qui signifie « dénicheur d'enfants ». Longtemps, les Comprachicos ne se cachèrent qu'à demi. Il y a parfois dans l'ordre social une pénombre complaisante aux industries scélérates. Elles s'y conservent. Sous les Stuarts, les Comprachicos n'étaient point mal en cour. Au besoin, la raison d'État se servait d'eux. C'était l'époque où l'on tronquait les familles encombrantes et réfractaires, où l'on coupait court aux filiations, où l'on supprimait brusquement les héritiers. Parfois, on frustrait une branche au profit de l'autre. Les Comprachicos avaient un talent, défiguré, qui les recommandait à la politique. Défigurer vaut mieux que tuer. Il y avait bien le masque de fer, mais c'est un gros moyen. On ne peut peupler l'Europe de masques de fer, tandis que les battleurs difformes courent les rues sans invraisemblance. et puis le masque de fer est arrachable. Le masque de chair ne l'est pas. Vous masquez à jamais avec votre propre visage, rien n'est plus ingénieux. Les comprachicos travaillaient l'homme comme les Chinois travaillent l'arbre. Ils avaient des secrets, nous l'avons dit. Ils avaient des trucs. Art perdu. Un certain rabougrissement bizarre sortait de leurs mains. C'était ridicule et profond. Ils touchaient à un petit être avec tant d'esprit que le père ne l'eût pas reconnu. Quelquefois, il laissait la colonne dorsale droite, mais il refaisait la face. Il démarquait un enfant comme on démarque un mouchoir. Les produits destinés aux battleurs avaient les articulations disloquées d'une façon savante. On les eût dit désossés. Cela faisait des gymnastes. Non seulement les comprachicos ôtaient à l'enfant son visage, mais ils lui ôtaient sa mémoire. Du moins, ils lui en ôtaient ce qu'il pouvait. L'enfant n'avait point conscience de la mutilation qu'il avait subie. Cette épouvantable chirurgie laissait trace sur sa face, non dans son esprit. Il pouvait se souvenir tout au plus qu'un jour, il avait été saisi par des hommes, puis qu'il s'était endormi, et qu'ensuite on l'avait guéri. Guéri de quoi? Il l'ignorait. Des brûlures par le soufre et des incisions par le fer, il ne se rappelait rien. Des comprachicos, pendant l'opération, assoupissaient le petit patient au moyen d'une poudre stupéfiante qui passait pour magique et qui supprimait la douleur. Cette poudre a été de tout temps connue en Chine et y est encore employée à l'heure qu'il est. La Chine a eu avant nous toutes nos inventions. L'imprimerie, l'artillerie, l'aérostation, le chloroforme. Seulement la découverte qui, en Europe, prend tout de suite vie et croissance et devient prodige et merveille, reste embryon en Chine et s'y conserve morte. La Chine est un bocal de fœtus. Puisque nous sommes en Chine, restons-y un moment encore pour un détail. En Chine, de tout temps, on a vu la recherche d'art et d'industrie que voici. C'est le moulage de l'homme vivant. On prend un enfant de 2 ou 3 ans, on le met dans un vase de porcelaine plus ou moins bizarre, sans couvercle et sans fond, pour que la tête et les pieds dépassent. Le jour, on tient ce vase debout. La nuit, on le couche pour que l'enfant puisse dormir. L'enfant grossit ainsi sans grandir, emplissant de sa chair comprimée et de ses os tordus les bossages du vase. Cette croissance en bouteille dure plusieurs années. À un moment donné, elle est irrémédiable. Quand on juge que cela a pris et que le monstre est fait, on casse le vase. L'enfant en sort et l'on a un homme ayant la forme d'un pot. C'est commode. On peut d'avance se commander son nain de la forme qu'on veut. Les comprachicos, avec la nuance qui sépare une industrie d'un fanatisme, était analogue aux étrangleurs de l'Inde. Ils vivaient entre eux, en bande, un peu baladins, mais par prétexte. La circulation leur était ainsi plus facile. Ils campaient çà et là, mais graves, religieux, et n'ayant avec les autres nomades aucune ressemblance, incapables de vol. Le peuple les a longtemps confondus à tort avec les morisques d'Espagne et les morisques de Chine. Les morisques d'Espagne étaient faux monnayeurs, les morisques de Chine étaient filous. Rien de pareil chez les comprachicos. C'étaient d'honnêtes gens. Qu'on en pense ce qu'on voudra, ils étaient parfois sincèrement scrupuleux. Ils poussaient une porte, entraient, marchandaient un enfant, payaient et l'emportaient. Cela se faisait correctement. Ils étaient de tous les pays. Sous ce nom, comprachicos, fraternisaient des Anglais, des Français, des Castillans, des Allemands, des Italiens. Une même pensée, une même superstition, l'exploitation en commun d'un même métier font de ces fusions. Les comprachicos étaient plutôt une association qu'une peuplade, plutôt un résidu qu'une association. C'était toute la gueuserie de l'univers ayant pour industrie un crime. C'était une sorte de peuple harlequin composé de tous les haillons. Affilier un homme, c'était coudre une loque. Errer était la loi d'existence des comprachicos. Apparaître, puis disparaître. Qui n'est que toléré ne prend pas racine. Même dans les royaumes où leur industrie était pourvoyeuse des cours et aux besoins auxiliaires du pouvoir royal, ils étaient parfois tout à coup rudoyés. Les rois utilisaient leur art et mettaient les artistes aux galères. Ces inconséquences sont dans le va-et-vient du caprice royal, car tel est notre plaisir. Pierre qui roule et industrie qui rôde n'amassent pas de mousse. Les comprachicos étaient pauvres. Ils auraient pu dire ce que disait cette sorcière maigre et en guenille, voyant s'allumer la torche du bûcher. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Peut-être, probablement même. Leur chef restait inconnu, les entrepreneurs en grand du commerce des enfants étaient riches. C'était, nous l'avons dit, une affiliation. Elle avait ses lois, son serment, ses formules. Elle avait presque sa cabale. Qui voudrait en savoir long aujourd'hui sur les comprachicos n'aurait qu'à aller en Biscaye et en Galice. Comme il y avait beaucoup de Basques parmi eux, c'est dans ces montagnes-là qu'est leur légende. Les lois contre les vagabonds ont toujours été très rigoureuses en Angleterre. L'Angleterre, dans sa législation gothique, semblait s'inspirer de ce principe. Homo errans ferra errante peror. Un de ces statuts spéciaux qualifie l'homme sans asile, plus dangereux que l'aspic, le dragon, le lynx et le basilic. L'Angleterre a longtemps eu le même souci des gypsies, dont elle voulait se débarrasser, que des loups, dont elle s'était nettoyée. En cela, l'anglais diffère de l'irlandais qui prie les saints pour la santé du loup et l'appelle mon parrain. La loi anglaise, pourtant, de même qu'elle tolérait, on vient de le voir, le loup apprivoisé et domestiqué, devenu en quelque sorte un chien, tolérait le vagabond à état, devenu un sujet. On n'inquiétait ni le saltimbanque, ni le barbier ambulant, ni le physicien, ni le colporteur, ni le savant en plein vent, attendu qu'ils ont un métier pour vivre. Hors de là, et à ces exceptions près, l'espèce d'homme libre qu'il y a dans l'homme errant faisait peur à la loi. Un passant était un ennemi public possible. Cette chose moderne, flânée, était ignorée. On ne connaissait que cette chose antique, rôdée. La mauvaise mine, ce je ne sais quoi que tout le monde comprend et que personne ne peut définir, suffisait pour que la société prît un homme au collet. « Où demeures-tu ? Que fais-tu ?» Et s'il ne pouvait répondre, de dures pénalités l'attendaient. Le fer et le feu étaient dans le code. La loi pratiquait la cautérisation du vagabondage. Les comprachicos, insistons-y, n'avaient rien de commun avec les gypsies. Les gypsies étaient une nation. Les comprachicos étaient un composé de toutes les nations, un résidu, nous l'avons dit, cuvette horrible d'eau immonde. Les comprachicos n'avaient point, comme les gypsies, un idiome à eux. Leur jargon était une promiscuité d'idiomes. Toutes les langues mêlées étaient leur langue. Ils parlaient un tohu-bohu. Ils avaient fini par être, ainsi que les gypsies, un peuple serpentant parmi les peuples. Mais leur lien commun était l'affiliation, non la race. À toutes les époques de l'histoire, on peut constater, dans cette vaste masse liquide qui est l'humanité, de ces ruisseaux d'hommes vénéneux coulant à part, avec quelque empoisonnement autour d'eux. Les gypsies étaient une famille. Les comprachicos étaient une franc-maçonnerie. maçonnerie ayant non un but auguste, mais une industrie hideuse. Dernière différence, la religion. Les Gipsy étaient païens. Les Comprachicos étaient chrétiens. Et même bons chrétiens, comme ils sied à une affiliation qui, bien que mélangée de tous les peuples, avait pris naissance en Espagne, lieu dévot. Ils étaient plus que chrétiens. Ils étaient catholiques. Ils étaient plus que catholiques, ils étaient romains. Et si ombrageux dans leur foi et si purs. Les Comprachicos étaient acheteurs de la denrée humaine dont le roi était marchand. Ils excellaient dans les disparitions. Le bien de l'État veut de temps en temps des disparitions. Un héritier gênant, en bas âge, qu'il prenait et qu'il maniait, perdait sa forme. Ceci facilitait les confiscations. Les transferts de seigneurie aux favoris en étaient simplifiés. Les Comprachicos étaient de plus très discrets et très taciturnes, s'engageaient au silence et tenaient parole, ce qui est nécessaire pour les choses d'État. Il n'y avait presque pas d'exemple qu'ils eussent trahi les secrets du roi. C'était, il est vrai, leur intérêt. Et si le roi eût perdu confiance, ils eussent été fort en danger. Ils étaient donc de ressources au point de vue de la politique. En outre, ces artistes fournissaient des chanteurs au Saint-Père. Les Comprachicos étaient utiles aux Miserere d'Allegri. Ils étaient particulièrement dévots à Marie. Tout ceci plaisait au papisme des Stuarts. Jacques II ne pouvait être hostile à des hommes religieux qui poussaient la dévotion à la Vierge jusqu'à fabriquer des eunuques. En 1688, il y eut un changement de dynastie en Angleterre. Orange supplanta Stuart. Guillaume III remplaça Jacques II. Jacques II alla mourir en exil, où il se fit des miracles sur son tombeau et où ses reliques guérirent l'évêque d'Autun de la fistule, digne récompense des vertus chrétiennes de ce prince. Guillaume n'ayant point les mêmes idées, ni les mêmes pratiques que Jacques, fut sévère aux Comprachicos. Il mit beaucoup de bonne volonté à l'écrasement de cette vermine. Un statut des premiers temps, de Guillaume et Marie, frappa rudement l'affiliation des acheteurs d'enfants. Ce fut un coup de massue sur les Comprachicos, désormais pulvérisés. Au terme de ce statut, les hommes de cette affiliation, pris et dûment convaincus, devait être marqué sur l'épaule d'un fer chaud imprimant un R, qui signifie « rug », c'est-à-dire « gueux ». Sur la main gauche d'un T, signifiant « thief », c'est-à-dire « voleur ». Et sur la main droite d'un M, signifiant « manslay », c'est-à-dire « meurtrier ». Les chefs, présumés riches, quoique d'aspect mendiant, seraient punis du colistrigium, qui est le pilori, et marqués au front d'un P, plus leurs biens confisqués et les arbres de leurs bois déracinés. Ceux qui ne dénonceraient point les Comprachicos seraient châtiés de confiscation et de prison perpétuelle. Quant aux femmes trouvées parmi ces hommes, elles subiraient le cacking's tool, qui est un trébuchet dont l'appellation, composée du mot français coquine et du mot allemand stool, signifie chaise de pute. La loi anglaise était douée d'une longévité bizarre. Cette punition existe encore dans la législation d'Angleterre pour les femmes querelleuses. On suspend le cacking stool au-dessus d'une rivière ou d'un étang, on assoit la femme dedans, et on laisse tomber la chaise dans l'eau. Puis on la retire, et on recommence trois fois ce plongeon de la femme, pour rafraîchir sa colère.